16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à toutes et à tous. Longtemps, vous m'avez connu sous le nom un brin roturier de Mathieu Noël. Mais ça, c'était avant. Désormais, vous aurez la délicatesse de bien vouloir m'appeler Noël Premier. Car oui, non seulement cette saison, je vous propose une émission d'histoire, mais je le fais en compagnie de celui qui m'a adoubé. Il est rentré de vacances hier soir.
Sous comme un cochon.
Mais après une cure de noix du Brésil ce week-end, le voilà fringant, comme à l'époque de Saga. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bienvenue à vous qui nous écoutez tous, chaque après-midi de 16h à 18h. Avec Mathieu, on vous donne rendez-vous dans Historiquement Vôtre.
Raconter l'histoire sans se la raconter, telle est un peu notre mission, Stéphane.
Absolument, cher Mathieu. Chaque jour, nous vous racontons le destin de trois personnages réunis par un même point commun. Aujourd'hui, nous allons chercher à savoir qui a le plus long.
Excellente thématique.
Le plus long règne, Mathieu.
Ah oui, bon, c'est pas mal aussi comme thématique. En effet, si je vous dis comme ça spontanément, Ramsès II, Elisabeth II et Michel Drucker Ier, vous saisissez rapidement le dénominateur commun entre le légendaire pharaon, l'insubmersible reine d'Angleterre et Michel Drucker.
En tout cas, il a besoin d'être restauré lui aussi.
Oui, effectivement, la durée de leur règne, Stéphane. Effectivement, pour tout connaître d'eux, nous recevrons des invités. Un spécialiste de Ramsès II.
Robert Solé, écrivain, journaliste, spécialiste de l'Égypte, son pays d'origine, et auteur notamment de la vie éternelle de Ramsès II au seuil, ou encore la grande aventure de l'égyptologie chez Perrin.
Un spécialiste de la reine Elisabeth II.
Marc Roche, correspondant du Point à Londres, où il est installé depuis 1985.
Et enfin, un spécialiste de Michel Drucker.
Vous, Mathieu.
Exact.
Comme chaque après-midi, notre historienne Clémentine Portier-Kaltenbach nous entraînera dans les coulisses de l'histoire.
Plus que les coulisses, dans l'intimité de l'histoire, Stéphane, dans les alcôves de l'histoire, car comme disait souvent Louis XIV à ses courtisans entre deux parties de jeu de paume,
on va se faire une jolie petite partie. Garçon, fille, le genre mélange.
Mais ça ne pensait pas qu'à guerroyer, hein.
Quand a été inventée la fourchette? Et par qui? Comment est né le baba au rhum? Olivier Peuls remontera le temps pour nous expliquer l'origine de ses recettes, de ses ustensiles, de ses pratiques qui font l'art de vivre à la française.
Le programme est donné. Bienvenue dans Historiquement Vôtre.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre et on démarre avec un retour aux origines, celui que nous propose chaque après-midi David Castello-Lopez.
Bonjour David.
Bonjour.
Aujourd'hui, alors que se tenait ce rendez-vous, ce week-end, pardon, les journées d'été des écologistes, vous nous racontez les origines des partis écolos.
Oui, alors, il y a un jeu assez rigolo auquel je joue parfois quand je m'ennuie et qui consiste à deviner juste en regardant le visage des gens s'ils sont éco-responsables ou pas.
Alors nous?
Si je vous regarde, Stéphane et Mathieu, je reçois des informations différentes. Intuitivement, je dirais que la barbe de Mathieu montre qu'il pratique le tri sélectif, mais qu'il n'est pas non plus obsédé par son bilan carbone. Et Stéphane, vous, je dirais que historiquement, non. C'est-à-dire que vous êtes un héritier de la joie industrielle des Trente Glorieuses, du progrès gratuit, de l'époque où la principale peur qu'on avait, c'était de s'ennuyer et non pas de mourir brûlé par le soleil au mois d'octobre.
Je me rase à la main, vous savez.
Vous rasez à la main, c'est-à-dire. C'est-à-dire avec un ustensile, parce qu'à la main, avec vos ongles. C'est vraiment très étonnant, Stéphane.
Mais je sens aussi, Stéphane, que vous avez fini par prendre le train de la conscience verte, tardivement peut-être, mais avec une bonne volonté qui vous fait honneur.
Merci.
Ce que j'ai du mal à dire, c'est si l'un est vôtre, l'autre, vous avez voté écolo ou pas. En tout cas, on peut pas le révéler. Mais si vous avez voté écolo, vous avez eu le choix dans la nuance d'écologie qui vous faisait le plus plaisir, puisqu'il y a même des écologistes un peu de droite maintenant, comme François de Ruchy. Et pourtant, avant, il n'y avait pas de parti écolo, zéro, il n'y avait pas de parti écolo, que chi. Et comme toujours, la question que moi je me suis posée, c'est qui a créé le premier parti écolo? Alors, Mathieu, Stéphane, je ne sais pas si vous visualisez la forme de l'Australie.
On voit où c'est en tout cas. Voilà.
L'Australie, c'est une sorte de grosse boule comme ça qui ressemble un peu à une tête de fémur obèse. Vous voyez. Mais juste sous la pointe de cette tête de fémur obèse, il y a une petite île, enfin petite pour l'Australie parce que ça fait quand même la taille de l'Irlande. Et cette île, c'est la Tasmanie. La Tasmanie, généralement, les gens connaissent que pour une seule chose, c'est le diable de Tasmanie, qui est une sorte d'animal très laid à mi-chemin du rat et du chien, dont voici le cri.
Mais si Stéphane peut faire le même bruit dans certaines conditions, même.
C'est complètement horrible, on a l'impression qu'ils sont en train de mourir. D'ailleurs, si vous voulez voir des diables de Tasmanie, il faut se dépêcher parce qu'ils sont effectivement en train de tous mourir à cause de ce qu'on appelle la tumeur faciale transmissible du diable de Tasmanie,
qui est
un des seuls cancers contagieux du règne animal contre lequel il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà, dépêchez-vous. Mais la Tasmanie, c'est aussi une région de très jolis lacs, dont un qui s'appelle le lac pédère. Alors, il faut se remettre dans le contexte. À partir des années 60, dans le monde, il y a des petites batailles qui commencent à être livrées entre ceux qui veulent continuer la marche historique du progrès industriel et ceux qui disent ben non, on va arrêter de faire ça, en fait, parce qu'après, la nature, elle va être abîmée et ce sera triste. Jusque-là, c'est surtout des associations qui s'occupaient de dire non aux industriels et qui faisaient des manifs, tout ça. Mais là, en Tasmanie, il y a eu un événement qui a précipité la marche de l'histoire. C'est que la compagnie locale d'hydroélectricité a décidé de construire un barrage sur une rivière en aval du fameux lac Pedder. Et qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? Eh ben, ça augmente méchamment la taille du lac, ça engloutit plein d'endroits qui avant étaient au sec, et ça oblige plein d'animaux qui aimaient bien que ce soit sec à se démerder pour trouver d'autres endroits où vivre. Et ça, ça énervait énormément certains Tasmaniens. Ça les énervait tellement que le 23 mars 1972, à Hobart, qui est la capitale de la Tasmanie, ils ont créé le premier parti politique du monde dont le programme était entièrement écologique, le United Tasmania Group, pour donc s'opposer à la création du barrage. Les élections ont eu lieu le mois suivant, en avril 1972, et le United Tasmania Group, c'est formidable, s'est fait complètement rétamer sa race, puisqu'il n'a recueilli que 3,9% des voix.
C'est un parti écolo, quoi.
Mais oui, le barrage a été construit et le petit et joli lac Pedder est devenu un immense réservoir, encore pas mal visuellement, hein, mais peut-être un petit peu moins joli. À cause de ça, il y a des espèces qui sont éteintes, en particulier le ver de terre du lac Pedder, ce qui est triste.
Oui, on le regrette.
Mais vous vous souvenez, Stéphane, quand on en voyait partout au printemps? Voilà, c'est fini maintenant. Voilà. Enfin bon, ça a quand même eu des avantages, puisqu'aujourd'hui, en partie grâce à ce barrage, 90% de l'électricité produite en Tasmanie est renouvelable. Et ça, pour le coup, c'est super écolo.
Mais attendez, si on remonte beaucoup plus loin dans l'histoire, dans la Grèce antique, il n'y avait pas dans les débats sur l'agora, il n'y avait pas des politiciens qui étaient écolo, c'était pas le mot de l'époque, mais il n'y avait pas des gens qui se préoccupaient de la nature, surtout que la nature occupe une grande place dans la
philosophie. Ah non, mais des gens qui aimaient bien la nature, ça, il y en a depuis très très longtemps. Il
n'y
avait pas de parti écologique au sens politique, quoi.
Et donc, on dit merci aux Tasmaniens. Oui. Et à David Castillo-Lopez, merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1.
Deux jours déjà que vous régnez, cher Stéphane Bern, sur Europe 1. C'est beaucoup, mais c'est peu. Au regard de l'incroyable longévité de ces personnalités quasiment aussi célèbres que vous, Ramsès II, la reine Elisabeth II et Michel Drucker Ier, lequel des trois vous connaissez le mieux, Stéphane?
Elisabeth II.
Ramsès, vous étiez un peu jeune. Mais la reine, vous la connaissez vraiment?
Je l'ai rencontrée, oui. Presque aussi souvent que Michel Drucker.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, votre nouveau rendez-vous où avec mon pétillant complice, Mathieu Noël, nous allons vous faire aimer l'histoire.
Oui Stéphane, fort de ma pétillance et de votre expertise, nous allons traiter l'histoire avec à la fois légèreté et sérieux, un peu comme si Brassens avait décidé de reprendre un tube de la Compagnie Créole. Un cocktail qui, avouez-le, fait envie. Et Stéphane, pour notre premier grand récit du jour, vous nous parlez de Ramsès II.
Historiquement vôtre. Le récit.
En 1976, au Musée de l'Homme à Paris, pendant plusieurs jours, ils sont une centaine de scientifiques à se succéder. Leur objet d'étude, la momie de l'un des plus célèbres pharaons de l'Égypte antique, Ramsès II, qui doit être l'invité d'honneur d'une grande exposition qui lui est consacrée au Grand Palais. Ramsès II est le premier pharaon à prendre l'avion. Ben oui, son corps...
Est-ce qu'il était en business? Enfin, alors, même peut-être en
mieux,
première.
Mais vous pouvez même pas imaginer. Son corps, écoutez bien Mathieu, a été transféré dans la capitale française suite à la demande de Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République, avec l'accord de son homologue égyptien Anwar el Sadat, pour être restauré. Et savez-vous, Mathieu, quel document le troisième souverain de la 19e dynastie égyptienne emporte avec lui pour arriver jusqu'en France?
J'imagine son certificat de décès qui date d'il y a 3000 ans.
Un passeport. Un passeport. Bah oui, il faut bien un passeport. Quand vous voyagez, vous avez un passeport.
Ah oui, mais enfin, Ramsès, je pensais qu'il en était dispensé.
Oui, oui, 32 siècles après sa mort, Ramsès II est obligé de détenir un passeport pour voyager post-mortem. Les autorités égyptiennes ont même l'audace d'indiquer pour sa profession. Hein. Bon, l'adresse, on savait que c'était le musée égyptien du Caire, mais la profession, ils mettent pharaon.
Ça claque hein, sur une carte de visite.
Et vous savez, quand il est arrivé sur le tarmac, il y a eu la garde républicaine. C'était un chef d'État. Hein. Un chef d'État comme un autre. Bon, un peu mort.
Un peu mort, mais chef d'État quand même.
Et en plus mauvais état. Et un pharaon qui a qui a besoin d'être soigné, Mathieu, parce que avant d'être exposé, il était en mauvais état. C'est donc à Paris que Ramsès va retrouver une seconde vie. Parce qu'à cette époque, Ramsès II ne repose plus dans le sarcophage où il avait été trouvé en 1880, mais dans un cercueil en chêne fermé d'un couvercle de verre qui laisse apparaître son visage sous les linceuls de lin qui le recouvre. Le squelette semble en bon état. Les experts savent déjà que le bouclier abdominal de la momie est fissuré en plusieurs endroits. Cette fois, il va falloir stabiliser la tête, réhydrater le cou, soutenir le thorax, renforcer l'épaule gauche. C'est rien par rapport à tout ce que vous faites comme soin en thalasso.
Oui, hein. Quotidien.
Faire des injections spécial à l'épaule droite, car la clavicule s'est décrochée du sternum et l'humérus a percé l'épiderme.
Avec tous ces soucis qu'il a, Ramsès, j'ai peur qu'ils n'arrivent pas à le sauver, Stéphane.
Mais en même temps, Mathieu, il est déjà mort.
Ah oui, forcément, c'est rassurant.
Oui. Alors, c'est la momie de Ramsès II que l'on doit sauver, et notamment de l'attaque des moisissures et des champignons. Les experts utilisent la méthode de la radiostérilisation qui assure une protection définitive à la momie et à son sarcophage d'origine, dans lequel Ramsès II repose depuis. Beaucoup d'égards pour un homme considéré comme un dieu, notamment grâce à l'exceptionnelle longévité, c'est le thème de notre émission du jour, la longévité de son règne, 66 ans. Ça vous fait rêver, hein ?
Évidemment.
Surnommé Ramsès le Grand ou le Pharaon bâtisseur, il n'a de cesse, pendant les 7 décennies de sa souveraineté, de vouloir marquer à jamais l'histoire de l'Égypte. Aujourd'hui, la réalité a dépassé toutes ses espérances. Le monde entier connaît Ramsès II. Remontons le Nil jusqu'à son delta.
Oh, une croisière avec Stéphane Bern sur le Nil, j'en ai toujours rêvé. Hein.
Oui, oui.
Ça coûte cher hein, quand vous commentez une croisière.
C'est beaucoup moins cher maintenant depuis qu'il y a des problèmes.
C'est vrai,
vous faites
des primes maintenant.
Ils font des primes, j'assure. Oui, je vous donne pas.
Remontons le Nil, Stéphane.
Où est né Ramsès II? En 1304, pardon, vous me faites fauter.
En 1304, avant Jésus-Christ, avant de le préciser, Stéphane.
Oui, absolument. Fils de Seth Ier, alors Seth c'est S-E-T-H, hein, je vous le dis, et de la reine Moutouya, il succède à son père à 20 ans. Ramsès II, ou plutôt Ouser-Matré, son nom de couronnement, se révèle être, dès les premières années, un guerrier pétri d'ambition. La bataille militaire qui a marqué son règne est celle de Kadesh. Ramsès II veut reconquérir cette ville syrienne située au nord du Liban actuel. À l'époque, elle est aux mains des Hittites.
Hittites, téléphone maison. Je sais pas, non, excusez-moi Stéphane.
Vous n'avez rien compris, Mathieu. Hein. Les Hittites, c'est un peuple d'Anatolie qui cherche à s'emparer de nouveaux territoires égyptiens. Ramsès II, accompagné de plus de 35 000 hommes, s'engage sur les routes en 1274 avant Jésus-Christ. Après plusieurs semaines de marche, ils arrivent à proximité de Kadesh. Induit en erreur par des espions hittites, Ramsès II s'isole avec une partie de son armée. Leurs adversaires se ruent sur eux et le pharaon ne doit son salut qu'à l'arrivée de renforts et, dit-on, d'un immense courage. À l'issue de cette bataille, la situation reste inchangée. Le chef des hittites, Mouattali, se retranche dans Kadesh. Ramsès II, lui, rebrousse chemin. Mais le jeune pharaon est déterminé à atteindre son unique objectif, devenir l'égal d'un dieu aux yeux des Égyptiens, et pour y parvenir, il se révèle être un génie en matière de communication.
C'est son côté un peu Jacques Séguéla de l'Égypte antique.
Oui, mais sans la Rolex, hein, même avant 50 ans. Et un poil plus stratège, Ramsès II retourne cette bataille à son avantage et commande notamment un récit appelé le poème de Pantaour, l'un des plus longs textes de la littérature antique. Il exige alors que la bataille de Kadesh soit présentée comme une victoire écrasante de son armée. Et pour être certain qu'un maximum de personnes en soient informées pendant et après son règne, il fait tailler ses différents textes sur les parois des temples d'Abydos, de Karnak, de Louxor, d'Abou Simbel, et j'en passe, tous les temples.
Et les Hittites, là, ils n'ont pas réagi face à cette fake news antique ?
Eh ben non, bien au contraire.
Et Mediapart n'a pas réagi non plus.
Mais même pas.
C'est incroyable.
Ça n'existait pas à l'époque. Quelques années plus tard, en 1259, toujours avant Jésus-Christ, les deux peuples signent même un accord considéré aujourd'hui comme le premier traité de paix de toute l'histoire. Pour officialiser cette entente, Ramsès II prend pour nouvelle épouse, il en est plusieurs, je vais vous le raconter, la fille du souverain hittite. Il s'agit avant tout d'un mariage diplomatique, hein, au service de sa grandeur. Le pharaon, il faut bien le dire, est fin stratège. Là encore, il fait sculpter le contrat de mariage sur le temple d'Abou Simbel en toute simplicité. Désormais, les relations avec les pays frontaliers sont apaisées. Ramsès II peut passer à une nouvelle étape dans sa quête d'immortalité et de surpuissance.
Il fait construire la Ramsès Tower.
Ah, vous n'êtes pas très loin. Ah. Car Ramsès II veut laisser sa trace partout en Égypte. Son règne est marqué par la construction d'innombrables monuments. Les plus connus sont les temples d'Abou Simbel en Abyssinie. Ces deux temples sont des hémispéos. Vous savez, des temples qui sont creusés directement dans la roche et qui possèdent des œuvres de maçonnerie en façade. C'est très souvent des statues. Pour son grand temple d'Abou Simbel, Ramsès II n'a aucune limite. Les quatre colosses le représentant assis à l'entrée mesurent plus de 20 mètres de haut. Un brin mégalo dans la salle du Naos, le Saint des Saints, il fait sculpter trois statues des dieux, Re, Horakhti, Amon-Re, Ptah et une quatrième, c'est lui-même.
C'est pas plus mal comme
ça,
au
moins. Dieu, comme ça,
on
n'est
jamais mieux servi que par soi-même.
Assis sur une banquette, Ramsès II veut démontrer de façon symbolique qu'il est désormais l'égal des dieux. À côté de cet immense édifice, le pharaon fait ériger un autre temple consacré à son épouse préférée, Néfertari. Construire des temples à la gloire des dieux et à la sienne ne suffit pas, Ramsès II. Et vous allez voir que le pharaon est prêt à tout pour inonder l'Égypte.
Inonder l'Égypte, c'est un peu dangereux ça, Stéphane.
Oui, non, mais inonder l'Égypte de sa divine lumière, Mathieu.
Par Osiris, vous n'allez quand même pas interrompre votre récit là et envoyer sournoisement la pub, Stéphane. Je vois votre œil qui frise.
Je peux me montrer cruel. Vous apprendrez à me connaître, Mathieu.
Mon Dieu.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Se plonger dans l'histoire sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez Historiquement vôtre, émission dans laquelle Stéphane Bern prend un malin plaisir à jouer avec nos nerfs. Stéphane, vous nous parliez de Ramsès II qui voulait inonder l'Égypte de sa lumière.
Oui.
Y est-il j'ai failli ripper
là-dessus. Il y a des limites, oui.
Y est-il parvenu, Stéphane ?
Oui, Mathieu, vous l'avez compris, Ramsès II voit tout en grand. Un long règne de 66 ans et une très longue...
Nous y voilà, une longue quoi, Stéphane ?
Une longue liste de conquêtes, Mathieu.
C'est bien ce que je pensais.
Oui, il est amoureux des femmes. Il en aurait eu 8 officielles et plus de 100 enfants. Mais c'est aussi un boulimique de construction. Hein. Chaque nouvel édifice est l'occasion pour lui de se mettre en avant, vous l'avez bien compris. Le Ramesséum à Thèbes en est un exemple vibrant. Il s'agit de son propre temple funéraire. Le but est d'y accueillir un maximum de visiteurs venus de partout dans le monde pour célébrer sa mémoire durant les prochains siècles. Pour le construire, il n'hésite pas à démanteler d'anciens monuments. On recycle, vous voyez. Et il trouve un autre moyen de laisser une trace de son règne, mettre sa touche sur les monuments de ses prédécesseurs. Systématiquement, il fait apposer des peintures de ses victoires militaires, des figures le représentant, il y fait graver son nom, quitte même à gratter la pierre pour enlever la trace des anciens souverains.
Il ne faut pas gratter la pierre à Europe 1, Stéphane. Vous risqueriez d'effacer les traces de Laurent Cabrol, c'est considéré comme sacré ici. Hein.
Plus sérieusement, à Louxor, par exemple, Ramsès II ajoute un pylône, une grande cour, des colosses et des obélisques. Un obélisque sera d'ailleurs offert à la France en 1830 pour remercier Champollion d'avoir déchiffré les hiéroglyphes. Vous pouvez l'observer, il trône sur une petite place à Paris, la place de la Concorde.
Oui, je suis passé par là une fois.
C'est le plus vieux monument parisien.
Non.
Ben oui,
ah oui, le plus ancien. Oh,
le plus ancien.
Oh, il m'a piégé.
Oui, ben j'adore. Les temples ne suffisent pas à Ramsès II. En 66 ans de règne, il donne vie à ses plus grands projets, comme celui d'une nouvelle capitale, Pi-Ramsès, ce qui signifie très modestement la demeure de Ramsès. Une cité dotée de temples, d'un palais, de ports, de bâtiments militaires, qui s'étend sur 30 km² devient l'une des plus grandes villes au monde. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle a totalement disparu. Seul vestige au milieu d'une terre agricole, des bouts de maison de Ramsès II, dans laquelle il serait mort à environ 90 ans. C'est un record, hein ? L'analyse de sa momie a d'ailleurs suscité de nombreuses interrogations. Il était plutôt grand, 1m75 comme moi. Enfin, les Égyptiens à cette époque mesuraient environ 1m60.
À l'époque, c'était grand, Stéphane. Il ne faut pas vous emballer non plus. Hein. Aujourd'hui, 1m75, oui. c'est...
Vous savez, quand
c'est
je vous regarde, terrible. Je me désole. Quand je me regarde, je me console. Alors, je vois Ramsès II. Il aurait eu fait un solide des cheveux roux.
Ah, vous avez confondu avec la momie d'Orlando, ça probablement, Stéphane. Vous,
il
vous mélangez
est,
tout.
Il est toujours vivant. On est sûr de rien, Mathieu. Mais d'ailleurs, même les causes de son décès n'ont pu, à ce jour, être clairement définies. Enfin, je le dis en même temps, 90 ans, c'est un bon âge pour dire au revoir.
Tout simplement mort de vieillesse.
Maladie des artères, maladie des os touchant la colonne vertébrale, abcès dentaire ou simple mort de vieillesse, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, 3000 ans après son règne fastueux, Ramsès II fait toujours autant parler de lui, comme il l'a au fond toujours désiré.
Et on va continuer de parler de lui aujourd'hui dans Historiquement Vôtre avec notre invité qui le connaît bien, Ramsès II. Il l'a côtoyé, je crois même qu'on peut dire que Robert Solé était pote avec Ramsès II.
16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre.
Bonjour Robert Solé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Faut-il vous présenter ? Vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste de l'Égypte, votre pays d'origine. Vous avez notamment publié « La vie éternelle » de Ramsès II aux éditions du Seuil. Une vie éternelle, c'est vrai, un règne qu'il est tout autant. Ramsès II a surtout laissé une empreinte éternelle en Égypte, des monuments grandioses, donc, et puis aussi un corps, le sien.
Et c'est le plus émouvant, le plus saisissant. Vous savez, les pharaons sont toujours représentés de façon idéale. Le pharaon est toujours beau, jeune, musclé, etc. Là, nous avons au musée du Caire Ramsès II tel qu'il était à la fin de sa vie.
Est-ce que c'est la momie la mieux conservée, celle de Ramsès II ? Il n'y a pas mieux ?
Elle est très bien conservée et comme l'a dit Stéphane Bern, elle a été soignée à Paris. Et elle a été bien soignée. On a eu très peur, à vrai dire. Radiostériliser une momie au rayon gamma.
C'est quoi ça, radiostériliser une momie?
C'est l'envoyer au centre atomique de Saclay pour la stériliser. Alors, il y avait la crainte de renvoyer un Ramsès II chauve en Égypte.
Monsieur.
Imaginez un peu le scandale.
Ça aurait été terrible.
Mais ce qui est drôle, c'est que tous les chefs d'État maintenant viennent se faire soigner à Paris. Avant, il y avait l'hôpital du Val de Grâce. Et donc, on a soigné. Je crois que c'est Christiane Desroches-Noblecourt, qui était la grande égyptologue, qui avait un peu organisé le voyage.
Elle a organisé ce voyage avec un petit détail que vous n'avez pas signalé tout à l'heure. C'est qu'après son arrivée au Bourget, quand il a été accueilli par la garde républicaine, on a fait un geste. On a emmené tout le convoi faire le tour de la place de la Concorde avant d'aller au laboratoire du musée d'Orsay pour qu'il voie son obélisque. C'est son obélisque qui est là et qui est en effet le plus vieux monument, enfin plus vieux que la ville de Paris elle-même.
Mais c'est toujours une question, un camembert histoire dans le Trivial Poursuite.
Je ne jouerai jamais au Trivial Poursuite contre vous, Stéphane. Je ne suis pas fou.
Mais ce qui est incroyable, Robert Solé, c'est qu'au fond, à post-mortem, il a eu une vie aussi fascinante que durant son long règne de 66 ans.
Oui, mais parce que les pharaons, les Égyptiens en général, les pharaons en particulier, étaient tellement attachés à la vie qu'ils voulaient la rendre éternelle. Mais pour accéder à cette éternité, il fallait un certain nombre de conditions. Il fallait d'abord conserver le corps, donc la momification. Il fallait passer devant le tribunal divin, dire « je n'ai pas tué, j'ai été aussi bien qu'Osiris », etc. Il y avait un certain nombre de conditions qui devaient être remplies. Et Ramsès II remplit presque toutes les conditions. Presque parce qu'on n'a pas retrouvé le foie, les intestins, les poumons de Ramsès II qui étaient bandelettés à part. On ne les a jamais
retrouvés.
Ils ont
été volés, vous croyez ?
Mais on ne sait pas. Probablement, puisque la tombe a été pillée.
Oui, quelqu'un a dû les manger. Enfin,
c'est pas ce que cherchaient les pilleurs. Les pilleurs cherchaient plutôt le trésor, bien sûr.
Quelqu'un a dû les manger. Une nouvelle hypothèse lancée par Stéphane Bern aujourd'hui dans Historiquement Vaud.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Dans l'histoire des hommes, ils sont deux à avoir fait construire une statue d'eux-mêmes de 20 mètres de haut. Ramsès II dans son palais et Stéphane Bern dans sa villa de Paros. Un seul de ces deux souverains est en studio avec moi aujourd'hui. Stéphane, pour mieux cerner la personnalité, disons, un chouïa égocentrique de Ramsès II, nous sommes avec Robert Solé, écrivain et journaliste spécialiste de l'Égypte. Il est l'auteur notamment de La vie éternelle de Ramsès II au Seuil et de La grande aventure de l'égyptologie chez Perrin. Je vais poser la question que personne n'a encore osé poser Robert Solé parce que certains ont la réponse. Qu'est-ce qu'un pharaon ? Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'égyptologie, on assimile ça à un roi. Mais c'est plus qu'un roi, un pharaon.
Un pharaon, c'est beaucoup plus qu'un monarque de droit divin. C'est un dieu. C'est un dieu qui a été engendré par ses pères, par les dieux, et qui est chargé de prolonger la création du monde et de conserver l'équilibre du monde. C'est-à-dire que sans lui, le soleil ne se lève pas, le soleil ne se couche pas, le Nil ne coule pas. Et donc, une vacance du pouvoir est absolument impossible.
D'où vient, au fond, Robert Solé, cette quête de l'immortalité qu'avaient les pharaons? C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils épousaient leurs sœurs, non?
Je pense qu'on a beaucoup dit que c'était une civilisation très attachée à la mort. En fait, c'est une civilisation très attachée à la vie. Ils étaient tellement attachés à la vie qu'ils voulaient que leur pharaon, notamment, soit éternel.
Et pourquoi ils épousaient leur sœur ?
Oui, ça peut être... Allons directement à la question qui intéresse Stéphane.
Alors là, on s'éloigne un petit peu du sujet. C'était une autre civilisation.
Oui. On a de Ramsès II l'image vraiment du plus grand pharaon, le plus célèbre. C'est parce que, comme l'a raconté un peu Stéphane, c'était un grand communicant. Enfin, c'est lui qui a forgé cette destinée.
Bien sûr, c'est le premier grand communicant de l'histoire, mais pas seulement. Vous savez... Khéops n'est connu que par sa pyramide. Oui. Toutankhamon n'est connu que par son trésor. Oui. Ramsès II, lui, c'est le pharaon par excellence. C'est le pharaon emblématique parce qu'il a beaucoup construit, parce qu'il a signé, il s'est emparé, en fait, il a usurpé des constructions, notamment de son père, la grande salle hypostyle de Karnak. C'est Séti Ier qui l'a construite. Mais elle porte le nom de Ramsès II. C'est parce qu'il a eu un très long règne et aussi, on l'a dit, c'est parce qu'il est là devant nous, on a sa momie.
Comment on est sûr que c'était lui ?
On le sait parce que sur la momie elle-même, il y a des inscriptions, on en est absolument convaincu. C'est lui.
Et on sait de quoi il est mort. Je disais, parce que c'est vrai qu'il y a eu plein d'hypothèses. Vous, quelle est votre thèse ?
Non, il est mort dans son lit. Enfin, je n'étais pas sur place. Mais d'après ce qu'on sait, il est mort de vieillesse. Il est mort dans son lit. Il est mort parce qu'il, comme tout vieillard de cette époque, avait des troubles vasculaires, etc.
Il est mort de sa belle mort. Comment on évalue l'âge d'une momie ? Les bâtiments, on peut les dater au carbone 14, mais une momie, comment on fait ?
Mais on a maintenant toute une série avec l'ADN, l'ADN, même sur des momies, on réussit à prélever
de l'ADN. Il reste de l'ADN.
Cela dit, l'âge de Ramsès II n'est pas établi, rien n'est établi avec certitude, on va dire. Mais vous savez, quand on parle de l'Égypte ancienne, rien n'est établi avec certitude. Les Égyptiens ne nous ont pas légué une grammaire de leur langue, ils ne nous ont pas légué un catéchisme, un traité de théologie. Les égyptologues sont obligés de reconstituer tout ça. Et c'est très très compliqué.
Mais
ce qui fait que l'âge, l'estimation va de... La dernière estimation, ce n'est pas 90 ans, c'est 80 ans.
Ah.
C'est 80 ans.
Il a perdu 10 ans, le pauvre.
Et 10 ans de règne.
Et 10 ans de règne aussi, du même coup.
Il y a quand même pas mal règne. 56 ans, oui, c'est pas mal, oui. Mais ce qui est merveilleux, je ne sais pas si vous êtes allé voir les expositions, moi je suis allé souvent au musée égyptien du Caire, c'est fascinant, on voit tous ces corps et ça ne nous choque pas alors que...
Oui, c'est vrai que ça pourrait choquer de voir les corps.
Ça choque aussi, ça choque parce que ces corps n'étaient pas faits pour être exposés, pas plus que les tombes n'étaient faites pour être violées.
Oui.
Et c'est ça qui est le plus étonnant. C'est-à-dire, vous avez un pharaon qui est enterré avec un trésor fabuleux. Ce trésor n'est pas fait pour être vu. C'est nous qui le voyons. Et le corps non plus n'est pas fait pour être exposé.
En tout cas, ça marche, hein, parce que l'exposition Ramsès II a eu beaucoup de succès. Et celle de Toutankhamon, je peux vous dire, plus d'un million et demi de visiteurs. C'était quand même quelque chose à Paris. Merci en tout cas, Robert Soulier, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Historiquement Vôtre. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur les folles vies de Ramsès II, mais je vous invite à lire La vie éternelle de Ramsès II, paru aux éditions du Seuil.
Europe 1.
Et à suivre, l'histoire, ce n'est pas que des guerres, des couronnements et des traités, c'est aussi des passions humaines.
Oui, et sachant que nous sommes tous les deux, Stéphane, un peu prudes, pour ne pas dire pudibonds, nous avons décidé de confier la rubrique rose de notre émission à une historienne qui, elle, n'a pas froid aux yeux. Elle est passionnée par les à-côtés érotiques de l'histoire, la vie intime des têtes couronnées. Elle aime...
Le sexe.
Oui.
Fort, furieux, passionné, une avalanche sexuelle.
Grand mur pour tout le monde. Clémentine Portier-Kaltenbach nous entraîne avec gourmandise dans l'intimité de l'histoire.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Deux numéros seulement d'Historiquement vôtre et déjà une complicité dérangeante, presque salace, entre Stéphane Bern et notre historienne Clémentine Portier-Kaltenbach. Deux amoureux de l'histoire, mais aussi des à-côtés coquins de l'histoire. Et de souvenir en souvenir, il est parfois difficile de les arrêter.
Et on conservait le sperme des pendus aussi au Moyen-Âge, bien sûr.
D'ailleurs, je suis venu avec une petite fiole.
Salut Stéphane. Bonjour Clémentine.
Chaque jour... Vers 5h moins le quart, on s'en canaille avec vous, Clémentine, n'est-ce pas ?
Bonjour, messieurs. Oui, je vais vous parler aussi, moi, d'un genre de pharaon à sa manière. Hein. Alors, petite question. Quel est ce président de la République française, notre pharaon à nous, qui eut trois femmes dans sa vie à peu près simultanément ?
Hein? François Mitterrand.
Alors non, bah non, moi je m'attendais...
Félix Faure.
Ah bah non, mais non. Ah, je m'attendais à ce que spontanément vous me citiez François Hollande, Ségolène Royal, Valérie Trierweiler.
Bah pas en même temps.
Julie Gayet. Bah oui, bah pas en même temps. C'est ça, tout est là. Oui, bah, parce que moi, celui dont je vous parle, il est évidemment bien plus culotté parce qu'il vivait avec les trois en même temps.
En même
eh ben
temps.
Oui, je vous aide un peu là. Allez, allez. Second président de la République, Stéphane, après Louis-Napoléon. Non. À seulement 35 ans, il était déjà académicien et ministre de l'Intérieur. À 39, président du Conseil de Louis-Philippe, hein, plus fort que Laurent Fabius. Ben oui, Thiers,
ah oui,
Adolphe Thiers. Je vais vous raconter. Alors Thiers, on l'associe plutôt à la répression de la Commune généralement, oui, donc oui, il n'est pas très très bien vu. Bon, mais c'était aussi un politicien très populaire. Et quand on parle de Pharaon, Adolphe Thiers, il a participé à la vie politique française pendant près de 50 ans. Il a donc été le second président de la République française. Alors, c'était un personnage extraordinaire. Très haut en couleur, d'une intelligence, d'une vivacité, d'une force de travail hors du commun. Il dormait très peu, hein. Alors là, je ne sais pas, peut-être que vous allez vous reconnaître. Il donne couramment audience chez lui à 5 heures du matin. Est-ce que vous en faites autant dans votre abbaye, mon père, hein? Il carbure au café froid et à la brandade de morue.
Brandade
de morue. Ah ben oui, en même temps, parce que ça, c'est ses origines méridionales. Alors, physiquement... Plutôt petit, bien plus petit que les pharaons.
Un peu rondouillard aussi.
1m54, un peu rondouillard, une houppette à la Tintin. Pensez à Stéphane Bern à ses débuts à la télé. Il y avait un petit peu quelque chose
merci,
à ça.
Que de
oui, vous aviez un genre de houppette, quand, hein, non
restez
bon.
Poli.
Bon, alors, avec de petites lunettes à triple foyer et des gilets aux couleurs criardes, ça c'est pas vous. Une voix flûtée. Un accent méridional très prononcé. Alors ça, c'est pas la description d'un sexe symbole, ah, je reconnais.
Non. Et pourtant.
Et pourtant, d'abord, il fascine aussi bien les hommes que les femmes. D'abord parce qu'il a une culture, une curiosité exceptionnelle. Et puis, en effet, c'est un chaud lapin qui pratique les amours tarifés, comme d'ailleurs pratiquement tous les messieurs de la grande bourgeoisie à son
lieu.
C'est ça. Il se faisait payer.
On en veut vite
alors
payer
donc,
cher pour un
Adolphe
petit binoclard avec des lunettes à
est-ce
le foyer.
Est-ce qu'il échangeait des gâteries contre des
services politiques.
Des services politiques.
Alors là, vous devez le savoir mieux que moi. Ah,
pourquoi ça se pratique toujours aujourd'hui, Stéphane? Vous pas. Voulez nous entraîner sur un chemin
c'est vous qui vivez dans un collège militaire. Alors, donc, c'est ce Adolphe Thiers. Il a donc eu trois femmes dans sa vie, non pas successivement, mais simultanément.
C'est
et mieux
compliqué.
Encore, messieurs, tenez-vous bien, les trois femmes
l'ancien.
En question étaient de la même famille.
Oui.
Une mère
oui.
et ses deux filles. Alors oui. on imagine la pétaudière à la maison. Et ça se passe au 19e, c'est-à-dire que Adolphe Thiers, lui, il assume parfaitement une situation familiale qui, pour l'époque, est jugée inconvenante, voire scandaleuse. Et donc, Thiers, c'est vraiment le président de la République que tante Yvonne, Madame de Gaulle, n'aurait jamais reçu à l'Élysée. Parce que vous vous souvenez qu'elle avait failli ne pas recevoir Brigitte Bardot parce qu'elle était divorcée. Donc imaginez Adolphe Thiers et ses trois dames. Alors, 1828, c'est là que Thiers serait devenu l'amant de Madame d'Aune, qui a 3 ans de plus que lui. Elle est mariée à un homme d'affaires prospère et elle va prendre en main la carrière de son poulain. Elle va le lancer en politique. Elle lui fait rencontrer tout le gratin parisien. Victor Hugo, Chateaubriand, Lafayette, Stendhal, Mérimée. Tout ce gratin dont Thiers rêvait depuis Marseille. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand il arrive à Paris, c'est un jeune avocat sans un sou. Il vit dans une mansarde et il ne mange que de la brandade de morue. Donc Thiers doit à Sophie...
Et du café froid.
Et lui doit sa carrière politique, parce que ce sont les dons qui vont lui donner l'argent, qui vont lui permettre d'être candidat aux législatives. Et par la suite, jamais Thiers ne prendra une décision sans la soumettre à Sophie, ce qui fera écrire à Balzac « Elle est à peu près reine de France ». Et quelle est la brillante idée de Madame d'Aune pour garder celui qu'elle
de
l'appelle
de mettre ses deux filles dans le lit d'Adolphe Thiers.
Tout à fait. Alors pour conserver le petit près d'elle, Sophie d'Aune a la brillante idée de lui faire épouser sa propre fille, Élise, en 1833. Il a 36 ans, elle en a 15, elle obéit docilement à sa maman... Et elle sait très bien que son mari continue à coucher avec sa mère. C'est sympa. Alors à la maison, c'est
ambiance.
Sophie d'Aune. Et son surnom, le Sophie d'Aune, c'est Madame Jordonne. Madame Jordonne, c'est elle qui décide tout.
Ah,
hein.
Madame Jordonne.
Et pendant 37 ans, Thiers vit avec ces dames. Il refuse de se déplacer sans les trois. tout Paris est au courant et tout Paris en fait des gorges chaudes.
Ah bah quand vous les invitez à dîner...
Mais vous imaginez, mais ils ne se déplaçaient pas sans les trois. Alors dans Paris, on les appelle les trois moitiés de Monsieur Thiers. C'est beau,
ah, c'est pas mal.
On avait beaucoup d'esprit à l'époque.
On dit donc Thiers, parce qu'on entend parfois
oui.
Thiers.
Moi,
à l'école, on nous disait Thiers, on dit Thiers.
C'est comme la prononciation restituée en latin, il ne faut pas charrier. C'est Adolphe Thiers, on a tous dit Thiers.
Vous avez noté Stéphane ?
Non,
moi j'ai dit Thiers tout à l'heure.
Bon, alors non, Adolphe Thiers. Alors après la mort de Sophie, on dit que Thiers aurait eu Félicie aussi. C'était la troisième. Et tout le monde s'y fait. Il fallait bien courtiser ce harem pour plaire au sultan, nous dit le duc de Castries. Donc, le mariage de Thiers est un vrai mariage d'amour, mais un mariage d'amour non pas avec sa femme, mais avec sa belle-mère. Et en compensation bien tardive de son sacrifice sur l'autel de l'adultère et de l'ambition, Élise d'Aune, son épouse, deviendra en 1871, donc 38 ans après son mariage, la toute première dame de l'histoire de la République française. Même si ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque. Et elle aura sa revanche, parce qu'une fois que Thiers est devenu vieux, non seulement elle le prive de brandade de morue, ce qui est quand même assez cruel, mais en plus, quand il mourra, c'est elle qui refusera qu'il soit enterré au Panthéon. Et toc.
Petite revanche.
Incroyable.
On savait vivre à l'époque quand même, Stéphane. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais oui, mais merci beaucoup, Clémentine. À suivre dans Historiquement Vôtre, ce moment rieur pour vous, dangereux pour moi, parce que c'est vrai, je ne suis pas très bon dans les jeux, moi. Le quiz d'histoire qui m'opposera donc à Clémentine Portier-Kaltenbach.
Exactement. Faites vos jeux. Moi, je miserai plutôt sur Clémentine.
Vous avez raison, c'est le bon cheval.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Il a présenté plus de 140 numéros de Secrets d'Histoire, publié 4 tomes des Pourquoi de l'Histoire. Il est si élégant que même lorsqu'il éternue, on a l'impression qu'il fait référence à une souveraine d'Égypte.
Hatshepsut.
Pourtant, chaque après-midi, il consent à remettre son titre en jeu en se mesurant à Clémentine Portier-Kaltenbach. Stéphane Bern est-il aussi balèze en histoire que son CV le laisse penser? Jouons à Bern to be alive. On voit parfois de nos jours, Stéphane, des bobos plier leur vélo et l'emmener avec eux au bureau. Il arrive souvent qu'on les insulte d'ailleurs parce qu'en les croisant dans l'escalier, ils nous cognent avec une roue. Mais pendant le débarquement, des soldats parachutistes britanniques ont sauté avec des vélos pliables. Vrai ou faux?
Oh, je suis sûr que c'est vrai, oui.
Vous êtes sûr que c'est vrai?
Oui.
Réfléchissez bien, Stéphane.
C'est vrai.
C'est vrai. Effectivement, bonne réponse. C'était des vélos militaires, des vélos spécialement conçus pour les soldats parachutistes britanniques. 70 000 ont été fabriqués. Ils ont été principalement utilisés par l'infanterie britannique et canadienne lors du 6 juin 1944. Question 2, cette fois-ci pour vous, Clémentine. Est-ce qu'Agatha Christie aurait pu prendre le Concorde?
Est-ce qu'Agatha Christie aurait pu prendre le Concorde? Alors, si elle l'a pris, elle devait être dans le même état que la momie de Ramsès II, comme elle aimait beaucoup l'égyptologie, parce qu'elle a épousé un égyptologue, Agatha Christie. Eh bien, je pense que, si vous me posez la question, c'est que probablement Ricra qu'elle aurait peut-être pu prendre le Concorde. Moi, je la voyais mourir au début des années 70, Agatha Christie.
Oui, mais votre raisonnement est le bon, donc la réponse est...
Oui.
La réponse est oui. Ah, nous avons encore des fortiches en histoire. Effectivement, Agatha est décédée en 1976. Le premier vol du Concorde date de 69, donc théoriquement oui, même si le premier vol avec passagers a eu lieu en 79, donc j'accepte le oui. Mais bon,
c'est gentil,
juste.
Merci. C'était vous juste. Êtes indulgent.
Question 3. Stéphane Bern. Qui a le plus gros cerveau, l'homme de Cro-Magnon ou l'homme moderne? Là, j'aimerais pouvoir décrire, j'aimerais avoir les mots pour décrire ce qui se passe dans votre regard.
Si vous posez la question, c'est qu'a priori, on va nous prétentieux, on va dire l'homme moderne.
Ouais.
Mais sans doute, c'est l'homme de Cro-Magnon.
Je ne sais pas quelle taille de votre cerveau, Stéphane.
Sachez,
par rapport à mon cerveau, c'est l'homme de Cro-Magnon.
Et oui, c'est une bonne réponse. J'accepte cette réponse. En 30 000 ans, figurez-vous que le cerveau humain s'est rétréci de 20%. Ouais. On a perdu l'équivalent d'une balle de tennis. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est devenu complètement con. On a juste développé des formes d'intelligence différentes. Quatrième question pour vous, Clémentine. Avant de s'épanouir dans une brillante carrière de dictateur, Benito Mussolini a été coiffeur à ses débuts. Vrai ou faux?
Pour moi, il était instituteur, Mussolini, mais bon...
Et donc
la réponse serait plutôt non.
La réponse est non, elle est imprenable. Effectivement, il était instituteur, Benito Mussolini, comme sa maman. Touchante histoire. Question 5. Question 5, attention, c'est pour vous deux, les amis. Alors là, c'est une question de rapidité. Henri IV a eu un frère mort d'une façon particulière.
Oui, c'est vrai.
Trois propositions.
Je le sais.
Oui, ben attendez, je donne les propositions. Parce que Stéphane, lui, tu n'as pas l'air de savoir.
Vous savez, Stéphane,
alors,
ou pas
vous laisserez deux secondes à Stéphane pour voir s'il réussit à avoir une idée.
Ouais. Ok. Oui.
Alors, un,
il s'est baigné avec son armure. Mauvaise idée. 2. Il est mort à cause d'une levrette, Stéphane. Pendant une chasse, son assistant a voulu tirer sur un lévrier femelle. La flèche est arrivée dans son visage. Ou 3. Petit, sa nourrice jouait à le jeter par la fenêtre. Un complice le rattrapait. Et une fois, eh ben, il ne l'a pas rattrapé.
C'est une sorte de levrette, à mon avis.
Clémentine ?
Alors, pas du tout. Non. En fait, quand il était bébé, c'était donc le fils aîné, le frère aîné d'Henri IV, qui n'aurait pas dû régner. Il avait un frère aîné. Et sa nourrice, cette godiche, jouait avec le bébé emmailloté dans ses langes, à l'envoyer à un valet. Et ils ont joué au rugby avec futur roi de Navarre. Et en effet, le bébé est passé par la fenêtre. Donc, il n'y a pas du tout d'histoire de levrette dans cette histoire.
Au grand dame. Au grand dame, d'où ça vient, cette expression ?
Ben oui,
dans vos mots de l'histoire.
Je vous l'expliquerai un de ces jours.
Merci
absolument.
Beaucoup. En tout cas, c'est une bien sombre histoire. Cette histoire de bébé jeté par la fenêtre. Et notre ami Christophe Onglat reviendra dessus. Je ne vraiment pas douter dans une prochaine émission. Merci, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui remporte le quiz.
Ah, triomphe, Romain.
Et aujourd'hui, on vous raconte les histoires incroyables de personnalités dont le règne fut long, mais très long.
Presque aussi long que votre règne sur l'audiovisuel français, Stéphane, c'est dire.
Enfin, il n'est pas terminé, j'espère. Vous êtes désormais incollable sur Ramsès II. Dans la deuxième heure d'Historiquement Vôtre, nous allons nous rejouer la série The Crown en évoquant le destin hors norme de la reine Elisabeth II d'Angleterre.
Dans une émission thématique, Stéphane, passé d'une momie à la reine d'Angleterre, votre fiel est décidément sans limite.
(rire) 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Bienvenue à vous, je suis Stéphane Bern. Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui ambitionne de faire aimer l'histoire à ceux qui d'habitude la boudent. Comment ? Eh bien par une astucieuse technique qu'on appelle le mélange des genres.
Astucieuse technique certes Stéphane, mais attention, le mélange des genres est un art délicat qui nécessite un luxe de précaution pour ne pas déboucher sur quelque chose de gênant, comme par exemple l'album hommage à Beethoven d'Yvette Horner en 2002. Attention donc à maintenir un bon équilibre entre savoir et déconne. Pour ce faire, on a chacun, Stéphane, notre domaine de compétence. Vous, c'est plutôt le savoir. Même si votre humour peut parfois se montrer ravageur, comme durant le pilote que nous avions enregistré pour cette émission.
Une reine n'est pas simplement un nom de pizza, qu'elle soit ou pas avec des champignons.
Dommage qu'on l'ait coupé au montage, Stéphane. Sinon, quid du programme de cette deuxième heure ?
Eh bien, dans la suite d'Historiquement Vôtre, vous le savez, parce que vous avez passé la nuit à écrire son portrait, oui. Vous nous raconterez, Mathieu, le destin hors norme de Michel Drucker Ier, célèbre animateur de radio, de télévision, qui tente de battre le record de longévité de règne de Ramsès II.
Vous êtes en roue libre, Stéphane, et j'aime ça. Deuxième émission, et vous voulez déjà nous fâcher avec Michel Drucker, vous savez que ça porte malheur dans le métier.
Bah, Michel est un ami.
Non, c'est mon ami, poursuivez quand même.
Nous retrouvons également Olivier Peuls et ses papis de la nation. Je vous raconterai l'histoire, avec quelques secrets bien gardés, de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, qui règne elle aussi depuis longtemps. Mais alors très, très longtemps.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Avec mon nouveau complice Stéphane Bern, on est ravis de vous faire découvrir l'histoire. Entre nous, la sauce a pris très vite, on est déjà cul et chemise, ou plutôt devrais-je dire, vu ce qui se profile, ass and shirt.
Oui, Mathieu, je vois que la langue de Shakespeare n'a plus aucun secret pour vous, et ça tombe bien, car nous allons maintenant traverser le Channel, la Manche.
Mettons le cap sur la patrie du tea time, du cricket et des Beatles. Vous reconnaissez évidemment l'hymne national du Royaume-Uni, cette monarchie constitutionnelle dirigée d'une main de maître par la femme la plus célèbre de ces 70 dernières années. Paul McCartney disait d'elle qu'elle était jolie, mais n'avait pas grand-chose à dire. Vous, en tout cas Stéphane, vous êtes intarissable sur Sa Majesté la Reine Elisabeth II.
Absolument. Et je vais vous le démontrer tout de suite, mon cher Mathieu.
Soyons prudents, vous savez que le moindre faux pas, le moindre mot mal interprété, et c'est toute l'Angleterre que nous aurons sur le dos. On ne badine pas avec la reine.
Historiquement vôtre. Le récit.
Ah, un peu d'Elgar. Pomp and Circumson. Non, j'adore Elgar, c'est vrai, ça me met en forme.
Mais j'aime aussi, effectivement, tous les matins, un petit peu d'Elgar et hop, ça repart. Oui. Elgar, ça repart, c'est d'ailleurs le slogan.
C'est un secret pour personne, Mathieu. J'ai une profonde admiration pour Elisabeth II, qui règne sur le Royaume-Uni et le Commonwealth depuis 68 ans, 5 mois et 11 jours. C'est Sa Majesté. Très gracieuse Majesté Elisabeth II.
Stéphane, c'est parfait, c'est précis, vous avez tout dit.
Queen Elizabeth II est le souverain régnant depuis le plus longtemps et le plus âgé actuellement en fonction. Et pourtant, à 94 ans, elle n'a jamais été aussi populaire.
En 68, en règne, Elisabeth II a rencontré 15 premiers ministres britanniques, 12 présidents américains, 10 présidents français et des centaines d'autres chefs d'État. Elle totalise environ 1000 visites officielles dans plus de 100 pays.
Elle doit avoir, moi j'adore compter les tampons sur mon passeport, elle doit avoir des centaines de tampons sur son passeport.
Hélas, non, aucun. Et pour cause, la reine n'a pas de passeport. En tant que souveraine, elle peut circuler partout dans le monde sans avoir à justifier de son identité. Bon, en même temps, elle est sur tous les billets de banque, sur tous les timbres.
Elle montre un billet de banque, elle dit « Regarde, c'est moi. Laissez-moi passer. »
Mais revenons au jour où la vie de Son Altesse Royale Elisabeth d'York a basculé. Le 11 décembre 1936, son oncle Édouard VIII abdique. Pour Lilibet, comme la surnomme ses proches, cette démission est un séisme. Son père, George VI, devient officiellement roi d'Angleterre. Il y a 10 ans, Élisabeth sait qu'un jour, elle devra lui succéder pour cette charge si importante.
Déjà qu'à 10 ans, on est un peu égocentré. Quand on apprend qu'on va devenir souverain d'Angleterre, ça doit quand même un peu chambouler.
Pas vraiment pour Élisabeth. Les premières années de sa vie sont insouciantes. Elle passe son temps à jouer avec ses poneys, surtout Dookie, le premier de ses 30 chiens corgis. Une race, vous savez, des Welsh, des Gallois. Ils font beaucoup de bruit et ils sont très gentils. Mais ils mordent un peu les mollets de ceux qu'elle n'aime pas. Mais avec son père sur le trône, Élisabeth apparaît désormais comme la princesse héritière. Et sa sœur, Margaret, sa sœur cadette, lui aurait dit « Ça veut dire qu'un jour tu seras reine ?» Pour you, je te plains.
Sympa la sœur.
Oui. Pendant 15 ans, son père tente de lui transmettre ce qu'il apprend lui-même sur le tas de la fonction de monarque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il partage avec elle le contenu des boxes. Vous savez, c'est ces coffres rouges en cuir qu'elle reçoit chaque jour et qui contiennent entre autres les notes secrètes du gouvernement, toutes les dépêches diplomatiques, toutes les lois qu'il faut contresigner. Elle est sacrée reine le 2 juin 1953. Le drame, si vous voulez, c'est qu'elle monte sur le trône quand son père meurt. Donc c'est toujours un deuil qui, en même temps, vous propulse comme ça sur le devant de la scène. Il est mort en février 1952. Il est couronné le 2 juin 1953, le jour où l'Angleterre... ce sont les Anglais qui montent sur l'Everest. Donc c'est une nouvelle ère élisabéthaine. À 26 ans, elle ne s'imagine pas que son règne sera le plus long de l'histoire britannique. Pendant 68 ans, Sa Majesté la Reine Elisabeth II n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Elle se révèle être une boulimique de travail. Les 2 premières années, elle parcourt plus de 15 000 kilomètres, prononce 102 discours, en écoute 176 et assiste pour l'anecdote à plus de 5 000 révérences. La seule chose, c'est qu'elle ne voit plus ses enfants. Mais ça, vous savez, le jour où elle revient, qui êtes-vous ? Et il en est ainsi pendant les 7 décennies qui suivent. Mais le XXe siècle se transforme à vive allure. Alors, pour que la monarchie perdure, la reine comprend qu'elle doit s'adapter et rester dans le coup.
Donc elle fait des selfies et elle a un compte Instagram, j'imagine.
Pas tout à fait, mais même si à 88 ans, elle a ouvert son compte Twitter,
non.
Vous savez qu'en quelques heures, elle compte plus de 2 millions de followers et 23 millions de followers aujourd'hui. En matière de communication, Elisabeth II a toujours une longueur d'avance. En 53, elle accepte que son couronnement soit filmé. Une première dans l'histoire de la télévision, 300 millions de personnes suivent la cérémonie. Elle a gain de cause contre Churchill. Et vous savez, pour qu'on voit ses lèvres à la télévision, elle a mis des rouges à lèvres bleues. À l'époque, c'était du noir et blanc.
Il fallait mettre du bleu pour qu'on distingue bien ses lèvres.
Oui, exactement. Fou. Donc elle a accepté, elle a mis le sceptre dans l'engrenage, si vous voulez. Elle a accepté que les médias
l'emportent. L'image est belle, Stéphane.
Oui. 16 ans plus tard, en 69, année érotique, elle surprend de nouveau.
Oui, elle fait la première de Jimi Hendrix à Woodstock.
Non. Alors qu'en Grande-Bretagne, l'avortement est légalisé, tout comme les relations homosexuelles, elle accepte de son côté de bousculer l'étiquette. Elle ouvre les portes de son intimité. Je parle
pas
du
trop
palais.
Quand même. Ah oui, du palais.
Une équipe de télévision la suit pendant 1 an. Réunions officielles, mais surtout vie quotidienne. Rien n'échappe à l'objectif de la caméra. On voit le duc d'Édimbourg, le mari d'Elisabeth, en charge du barbecue. Charles, leur fils aîné, finalise une sauce pour la salade. Et on voit la reine en train de boire le thé, de faire ses boîtes, comme on dit.
Mais bon, c'est pour dire que c'est pas l'histoire de la reine d'Angleterre que vous racontez, que vous parlez de Kim Kardashian, quoi.
Oui, enfin,
pas tout à
le
fait.
Postérieur est moins important. Enfin, là, c'est la reine dont je parle. Une reine qui sait manier l'humour, il est vrai. En 2012, vous vous souvenez, elle campe son propre rôle aux côtés de Daniel Craig, alias James Bond, dans une vidéo
pour l'ouverture solennelle des JO de Londres. Mais le quotidien de la reine ne consiste pas évidemment à passer devant des caméras. Être autant exposé comporte des risques. Il ne se passe pas un jour sans que son service de sécurité soit sur le qui-vive. En 66, elle échappe de peu à un attentat sur sa voiture. En 81, je m'en souviendrai toujours, alors qu'il défile à cheval lors de le Trooping the Colour, qui est un peu la fête nationale, un adolescent de 17 ans tire à blanc dans sa direction. L'histoire retiendra que Sa Majesté, cavalière aguerrie, réussit à maîtriser sa monture, c'était un cheval, hein, sans sourciller. En 82, il y a un homme qui s'introduit dans sa chambre pendant la nuit. La reine impassible discute avec lui pendant plusieurs minutes, puis elle appuie sur le bouton pour que la police arrive, mais elle a réussi à le calmer. Il s'était assis sur le lit de la reine quand même.
Stéphane, j'avais entendu parler de cette histoire. Oui. Comment c'est possible de s'introduire dans Buckingham? Déjà, il y a les gardes à l'entrée là. Bon,
ils ont grimpé par-dessus les grilles parce que, vous savez,
La chambre de la reine dans tout ça en plus.
Je peux vous l'indiquer.
Donnez-nous s'il vous plaît.
J'ai le plan
sur europe1.fr avec des petites flèches qui vous guident jusqu'à la chambre.
Vous savez, quand vous avez un bonnet à poil d'ours comme ça et que vous êtes déguisé en... Non mais c'est vrai, les gardes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils courent? Ils ne peuvent même pas courir. Voilà. En tout cas, ça comporte des risques, mais elle est très flegmatique. Elle est britannique, vraiment.
Et là, évidemment, c'est à ce moment que vous allez faire une pause dans votre récit, Stéphane.
Évidemment, Mathieu, c'est l'heure du thé. Vous savez qu'en Angleterre, c'est une tradition qu'on ne rate sous aucun prétexte.
Tea time.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement votre continue 2 heures de bonne humeur et de découverte et de suspense aussi. Il y a quelques instants, Stéphane nous laissait sur notre faim dans cette description du très long règne de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Il a désormais dégusté son thé et, ma foi, lesté d'une dizaine de scones bien beurrés, il est désormais prêt à nous replonger dans les turpitudes de celle qui règne sur le Royaume-Uni et le Commonwealth depuis 68 ans.
Oui, alors là, vous avez trop regardé The Crown, mais c'est vrai que depuis son sacre en 1953, la reine Elisabeth doit régulièrement sauver les apparences pour que les Windsor restent en surface, en tout cas irréprochables. Et c'est vrai que c'est pas une mince affaire, mais au fond, c'est comme dans toutes les familles, vous voyez. Il y a toujours des histoires. Alors, je laisse de côté les rumeurs d'adultère de son mari. C'est vrai qu'il est plutôt bel homme. Il aurait eu... il a rencontré des jeunes femmes dans des nightclubs lorsqu'il représentait la couronne à l'étranger.
Qui ne l'a pas fait, Stéphane.
Voilà,
il m'a jeté la pierre.
À 50 km de Windsor, si vous voulez, il y a prescription. Bon, je ne reviens pas non plus sur les tourments que lui a fait vivre sa sœur Margaret, la princesse rebelle, dont on sait maintenant qu'elle se droguait aussi un peu. j'ai lu ça récemment.
Stéphane, langue de pute, Berne.
Non, mais c'est vrai. Et puis je ne peux pas vous raconter d'anecdote, on n'a pas le temps, mais elle buvait du gin qu'elle entourait. On lui servait des verres, je croyais toujours que c'était de l'eau, mais en fait, il y avait toujours un linge qui couvrait son verre. En fait, c'était du gin qu'elle buvait cul sec. Enfin bon, je ne peux pas tout raconter.
La voilà habillée pour l'hiver.
C'est la pauvre, elle est morte maintenant. Alors, il existe une année que la reine souhaiterait ne jamais revivre pour rien au monde, c'est certainement... 1992. En 1992, c'est une année horrible pour Elisabeth II parce qu'elle doit célébrer d'abord ses 40 ans de règne et elle reçoit chaque mois des nouvelles plus sombres les unes que les autres. C'est vrai. Résumons, en moins d'un an, ses 3 enfants divorcent, notamment Charles qui divorce de Diana. Ensuite, Anne divorce. Il y a également Andrew avec Sarah Ferguson. Et puis le château de Windsor est subit un violent incendie.
Sale année pour la reine, effectivement.
Ah oui, cette fin de siècle n'est plus rose pour la reine. Sa cote de popularité même au plus bas en septembre 97 parce qu'il y a eu la mort évidemment de Diana qui est morte sous le tunnel du pont de l'Alma. La reine, pas toujours eu de très bonnes relations avec son ex-belle-fille, mais elle est très discrète et c'est vrai qu'elle retourne l'opinion en disant qu'elle avait admiré, respecté Diana. Et c'est vrai qu'elle a évité la crise. Le film The Queen le montre très bien. Depuis, la souveraine a brisé la glace avec ses sujets et elle fait tout pour être une grand-mère et même une arrière-grand-mère exemplaire et elle a regagné une popularité au zénith.
Est-ce que vous qui êtes bien informé, est-ce que vous savez si elle tricote des petits chandails à George, le fils de William et Kate?
Non, mais elle lui envoie des SMS.
Ah bon?
Elle est devenue, vous savez, elle a des gants spéciaux qui arrivent à... Non mais des gants, vous savez, sensibles, qui permettent de taper des messages sur les smartphones.
Mais vous n'avez pas besoin de gants pour taper des messages sur des smartphones?
Non mais elle enlève jamais ses gants.
Ah non, mais comment ça m'a fait
Stéphane? Mais parce qu'à un certain âge, on ne montre plus ses mains. Vous verrez ça un jour, je vous le souhaite en tout cas. Alors, elle ne tricote pas des chandails, elle envoie des SMS à ses petits-enfants. Et puis, surtout, elle adore Harry, son petit-fils, même s'il est parti avec son actrice américaine métisse et divorcée, Meghan Markle. Mais celle-là, elle l'a adoré, vraiment.
Ah oui, la reine est fan de Meghan Markle.
Oui, vraiment. Oui, elle aime bien Kate aussi, hein. Mais Kate est plus ennuyeuse.
Allez hop, elle aussi en prend pour son grade.
Disons, elle la fait moins rire, oui.
Quand on l'interroge sur le Brexit, qui a inauguré avec François Mitterrand le tunnel sous la Manche, sa réponse tient en une phrase et résume la longévité de son règne. Eh bien, tout change, mais moi je suis toujours là.
God save the Queen. God save the Queen.
16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Alors Stéphane, votre récit était captivant, mais oserais-je formuler l'hypothèse saugrenue que peut-être quelqu'un connaisse encore mieux la reine d'Angleterre que vous ? Cette gifle vous coûtera cher au prud'homme Stéphane. En attendant, nous sommes en ligne avec notre invité.
Bonjour Marc Roche.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, correspondant du Point à Londres. Vous êtes installé depuis 85. Votre dernier livre, « Elle ne voulait pas être reine », vient de paraître aux éditions Albin Michel. Alors, elle ne voulait pas être reine et pourtant, Elisabeth II l'est. Elle est même devenue à 94 ans le monarque britannique au plus long règne depuis le 9 septembre 2015, le jour où elle a dépassé le record de son aïeule préférée, la reine Victoria. Elle voulait vraiment pas être reine ou c'est plutôt ça participe de sa légende, Marc?
Elle ne voulait pas être reine parce qu'elle adorait son père et elle espérait qu'il allait avoir un long règne qui lui permettait à la fois de se préparer à la tâche et surtout de se dévouer à sa famille. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Elle est montée sur le trône à l'âge de 26 ans, non préparée à la tâche, et elle a dû sacrifier sa famille, ou plutôt elle a choisi de sacrifier sa famille au nom du devoir.
Dans votre livre, Marc Roche, vous écrivez, vous posez cette question, comment cette petite femme, sans qualité, entre guillemets, a réussi à asseoir l'institution la plus anachronique du monde, la monarchie britannique. C'est vrai que ça paraît, je la connais surtout à travers la série The Crown, de manière assez c'est populaire, c'est la série que j'ai regardée sur elle. C'est vrai que c'est étonnant, on a l'impression que c'est une femme qui s'est hissée à la hauteur de son destin, et même au-delà, alors qu'à la base, c'était pas gagné.
La reine, vous savez, elle a peut-être été pas préparée à la tâche, mais c'est une femme intelligente qui a appris sur le tas. Et elle a appris sur le tas en respectant scrupuleusement la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire vis-à-vis du Premier ministre, le droit d'être informé, d'encourager et le droit de mettre en garde. Surtout, elle n'a jamais rien dit de controversé. Moi, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises et les deux seules remarques que j'ai réussi à lui soutirer, c'est qu'elle soutenait Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen en 2002 et qu'elle ne pensait pas grand-chose de la francophonie. Sinon, elle m'a toujours posé les trois mêmes questions, à savoir depuis combien de temps vous êtes là, Monsieur Roche ? Est-ce que vous aimez l'Angleterre ? Et la troisième variait autour de l'événement, mais était toujours anodine. Donc en ne disant rien, on ne connaît pas ses convictions politiques. Sa popularité est aujourd'hui au zénith, comme une espèce de refuge face au remous de l'heure.
Alors on va voir peut-être dans quelques instants avec vous, Marc Roche, quel personnage se cache derrière cette femme qui est connue d'un milliard de sujets dans le monde et qu'on voit sur les timbres, les billets de banque, les pièces de monnaie.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous parle d'histoire sans se la raconter. Et Stéphane, aujourd'hui vous êtes aux anges, vous buvez du petit lait, ou plutôt vous savourez le pudding, comme on dit là-bas, puisque nous parlons avec Marc Roche, correspondant du Point à Londres, de la reine Elisabeth II. Stéphane, tout à l'heure vous nous avez dit que vous avez eu la chance de la rencontrer. Est-ce que vous aussi, elle vous a parlé politique ou elle tient toujours un discours très neutre?
Comme pour Marc Roche, elle tient un discours assez neutre. En même temps, c'est une femme très drôle. Je me souviens un jour, il se trouve que j'ai été décoré par elle parce que j'avais fait des émissions sur la monarchie britannique et notamment sur la reine Victoria.
Petite autopromo.
Oui, non, c'est fait. Vous voyez, après, ça, je serai enterré avec. Mais le truc qui est amusant, c'est qu'elle me dit, je lui ai expliqué que j'avais fait une émission sur elle. Elle me dit, mais je ne suis pas morte. J'ai dit, non, mais vous êtes entrée vivante dans la légende. Et c'est subtil. En fait, le rôle de la reine, c'est subtil parce que Marc Roche, il faut bien le dire, c'est la femme la mieux informée de son pays.
Ah oui.
Parce qu'elle a vu comme ça 15 premiers ministres. Et elle a un jeu, c'est qu'elle les met en examen, enfin, si je puis dire. Enfin, elle leur fait passer un examen le mardi à 18h pour vérifier s'ils connaissent bien les dossiers. Hein.
C'est dingue.
Et très souvent, elle connaît mieux les dossiers qu'eux parce que c'est une femme très disciplinée, qui lit tous les documents qui lui sont soumis, et ça la met en position à la fois égale avec le Premier ministre et souvent même en connaissant plus qu'eux, puisqu'elle a tout son réseau privé, que ce soit en tant que chef des armées, chef de l'État, chef de l'Église anglicane, la religion d'État. Elle est garante de l'unité du pays, mais surtout elle est à la tête de ce formidable mouvement caritatif, philanthropique très important au Royaume-Uni, qui lui permet d'être en contact avec ces sujets.
Alors justement, en parlant d'être en contact avec ces sujets, la dernière fois qu'on a vu la reine, c'était à la télévision le 5 avril dernier pour une allocution exceptionnelle en pleine pandémie de coronavirus dans laquelle elle appelait à l'unité.
Better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all.
Alors donc la reine appelle à l'unité. Elle disait surtout que les Anglais allaient retrouver leurs amis, leur famille. C'est qui les amis? Elle a des potes, la reine? C'est quoi son quotidien?
Alors écoutez, la reine n'a pas d'amis ou d'amis. Son premier cercle est bien sûr constitué par son époux, le prince Philippe, et les dames de compagnie qui sont toutes aristocrates ou appartiennent à la très haute bourgeoisie. Elle a plutôt un cercle de connaissances, mais qui est essentiellement formé de la haute aristocratie terrienne, en particulier les éleveurs de chevaux. Mais vous savez, en privé, d'après ce qu'on m'a dit, elle garde toujours ses distances, déteste la familiarité, est très attachée au protocole et ne se laisse jamais saisir, même par les quelques-uns qui lui sont proches. Comme disait François Mitterrand, vous savez, c'est une vraie reine.
Et un dernier mot, Marc Roger. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle mourra sur le trône. Enfin, peut-être à côté, mais en tout cas, elle ne va pas lâcher la rampe. Vous êtes du même avis ou vous pensez qu'elle va abdiquer en faveur de Charles?
La reine Elisabeth II n'abdiquera jamais, pour une raison bien simple, que c'est une femme très croyante et que son serment de 1953 est religieux, à savoir servir jusqu'à sa mort, et elle sera inflexible. Vous savez, la monarchie britannique, c'est pas les Belges, les Néerlandais ou les Suédois ou les Espagnols. On n'abdique pas, parce que quand on abdique, comme on l'a vu en 1936, c'est une véritable crise de régime qui se crée.
Parfait. En tout cas, merci Marc Roche d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Elle ne voulait pas être reine » aux éditions Albin Michel. Et puis on peut vous lire régulièrement sur le sujet dans les colonnes du magazine Le Point. Merci beaucoup Marc Roche.
Europe 1. Si d'aventure il rencontrait un jour la reine d'Angleterre, bon alors déjà elle serait certainement indisposée par les effluves de pâté en croûte qui émanent de sa personne, mais surtout c'est son rire guttural qui la désarçonnerait. Chaque après-midi, entre approximativement 17h31 et 17h35...
Le bon moment, c'est quand la bouteille de rosé est finie.
Voilà, quand il estime s'être suffisamment hydraté, Olivier Pouls remonte le fil de l'histoire de ses plats, de ses ustensiles ou de ses pratiques qui font notre quotidien, mais dont l'origine va vous surprendre.
Papy de la Nation.
Bonjour Olivier.
Bonjour mes amis.
Chaque jour, vous nous faites découvrir l'origine d'un plat, d'un ustensile, d'un produit. Et dans vos recherches, vous êtes parfois le premier surpris. Alors quel plat au menu d'aujourd'hui? Ramsès II et la Queen en ont-ils déjà mangé?
Ah, ils se sont probablement adonnés à cette pratique qu'en France, on pourrait même considérer comme une espèce de sport national.
Pas ensemble, j'espère.
Non, pas ensemble, individuellement.
C'est un sport national
en France. Oui, c'est une pratique.
Mais gastronomiquement quand même.
Regardez, l'heure qu'il est, on commence à s'en approcher furieusement.
L'apéro.
Exactement. L'apéritif. Et c'est vrai que nous, Français, on est pratiquement champions du monde de la discipline. Il n'y a pas énormément de pays dans lesquels on pratique l'apéritif, en tout cas de manière aussi ardue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'apéritif, dont le nom vient en fait du latin aperire, qui veut dire ouvrir, était à l'origine du temps des Romains une pratique qui n'était pas particulièrement conviviale. Il s'agissait d'ouvrir l'appétit, de se préparer au repas, les grands banquets romains, et donc il fallait préparer son organisme.
Ah, c'était des professionnels de la bouffe.
Bah oui, parce qu'ils passaient de nombreuses heures à table, alors autant vous dire
et
qu'il fallait...
en plus.
Et oui, il valait mieux être armé. Et donc, on ne buvait pas pour se faire plaisir, on buvait de manière médicinale.
À chacun buvait dans son coin.
Exactement, on buvait des décoctions en général d'herbes, de plantes, etc., avec des vertus un peu laxatives au départ.
Ah,
alors je ne sais pas si je vous imagine au camping prendre un laxatif avant... le barbecue ou la partie de boule, pas forcément, mais eux en tout cas avaient cette vision de l'apéro.
De toute façon, vous n'imaginez pas Stéphane au camping tout court. Hein,
si, c'est... Bah, si. Tu mets un camping 5 étoiles au minimum, voilà, hein, oui, piscine oui, et tout. Hein.
Ah oui, vous avez fait des pubs pour des campings, Stéphane.
Je ne fais pas de publicité.
Si.
Alors, oui, absolument.
Je vais les déterrer. J'en ai trouvé. Si, vous étiez très bon.
Et camping, le camping, oui, mais royal.
Voilà, alors écoutez, si j'ai pu vous servir à ça aujourd'hui, c'est déjà gagné. Vous voyez.
Ah oui, ça nous fait rire en tout cas.
Alors progressivement, l'usage va passer de médical à convivial. Par exemple, les Romains, à un moment, on avait probablement un peu ras-le-bol de leur mixture, donc ils se sont mis à boire du vin avec du miel, hein, c'est quand même un peu plus sympa.
Quand même mieux.
Et puis, les Grecs, ils avaient un truc que j'aime bien, ça s'appelait le symposion, c'est une réunion de buveurs. On buvait et on mangeait de manière alternative, comme ça, et avant de passer à table. Et alors, au Moyen-Âge, les seigneurs qui faisaient des grands banquets avaient l'habitude de trinquer avant, mais là, l'idée de trinquer, c'était pas simplement de se souhaiter longue vie, etc. C'était pour
éviter qu'on se fasse empoisonner.
Exactement. Donc, l'idée de trinquer, c'est qu'on entrechoquait les verres, pour qu'on en versait un tout petit peu dans le verre de son voisin.
C'est pour que les liquides se mélangent et on regardait dans les yeux.
Exactement.
D'où l'expression se il faut aussi se regarder dans les yeux quand on trinque.
Ah, c'est pourquoi
pour
ça
voir dans le regard de l'autre s'il a essayé de vous empoisonner.
Ah, ouais, d'accord, donc on fait ça, mais c'est, donc, moi je pensais que c'était de la superstition.
Oui, vous dites pas de sexe pendant 7 ans, c'est ce que vous dites quand. Vous savez, les gens disent ça, si on ne se regarde pas dans les yeux, mais là, tu n'auras pas de sexe pendant 7 ans. Ce qui est quand même un peu pénible.
Oui, c'est dommage.
Vous participez, vous avez vraiment de drôles de fréquentations.
Puis ce n'est pas très Covid non plus compatible. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, ces pratiques ont évolué. Au 19e siècle, l'apéro devient vraiment une institution. Et puis surtout, on commence à élaborer des boissons spéciales pour l'apéritif. Alors, on mélange du vin blanc avec différents produits. Mais en 1846... on crée un ingénieur français, un chimiste français, pardon, Joseph Dubonnet, crée le fameux
Dubonnet,
dont l'origine n'est pas de faire une boisson pour l'apéritif, mais c'est une boisson à base de quinine pour lutter contre le paludisme. Alors comme c'est pas bon, il y rajoute des décoctions de plantes, du vin, plein de choses pour le rendre acceptable. Ce sont les légionnaires d'ailleurs qui les premiers vont boire ce Dubonnet. Et c'est sa femme qui un jour, ne trouvant probablement pas grand-chose à servir dans le bar, va sortir une bouteille de ce Dubonnet à l'apéritif. Succès total, bouche à oreille. Et le Dubonnet devient un des symboles, un des emblèmes de l'apéritif du 19e siècle. Et puis arrivent d'autres boissons au début du 20e siècle, par exemple le pastis.
Ah, le pastis, c'est le 20e siècle.
C'est début du 20e siècle à Marseille. Et là aussi, ça devient évidemment un des grands symboles de l'apéritif.
Il y a la béquire
qui a le premier, qui est un chanoine bourguignon qui mélange du vin blanc avec du jus de cassis. Ben oui, c'est lui qui a
donné. C'est pour ça qu'on dit le kir et le kir royal. C'est un abbé à la base.
C'est un chanoine, oui.
Exactement, qui donne son nom à ce mélange vin blanc.
Vous êtes bon là, vous êtes meilleur que sur le quiz, Stéphane.
Sur la parole,
j'ai marqué tous mes points. J'ai chu
néanmoins, vous avez perdu.
Et puis l'apéro finit par se garnir aussi de multiples préparations et on en arrive à ce qui est aujourd'hui l'une de vos spécialités, mon cher Mathieu, c'est l'apéro dînatoire.
Oui, c'est vrai, oui. Ça c'est quand on ne sait pas cuisiner, voilà. On dit je t'invite, mais pour un apéro dînatoire, ça veut dire t'attends pas non plus à un festin, mais juste on va
voilà,
vous faire
on achète un certain nombre de choses, et voilà où on en est aujourd'hui avec se retrouver chez Mathieu Noël avec un apéro dînatoire, tout ça partant des Romains qui voulaient un produit laxatif. Vous voyez, la boucle
est bouclée. Comme quoi. Et ça, je peux vous dire que c'était un spécialiste aujourd'hui qui vous parlait de l'apéro. Je peux en témoigner, Olivier Pouls. Étant venu souvent le préparer chez moi. Merci beaucoup Olivier Pouls pour cet éclairage historique.
Europe 1.
C'est clairement le point culminant de notre émission. C'est en tout cas comme ça qu'il m'a demandé de le vendre.
Oui, s'il vous plaît.
À suivre, le portrait de Mathieu Noël de notre troisième personnage du jour. Après Ramsès II et Elisabeth II, un autre dont le règne n'en finit pas.
Eh oui Stéphane, aujourd'hui je vous parle de Michel Drucker, le Ramsès II du service public. Le Khéops du canapé rouge, que je connais assez bien vu que j'ai travaillé avec lui à mes débuts ici même à Europe 1. D'ailleurs, je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit lors de notre premier entretien.
Respire, tu vas rien sentir. Je vais te faire ça sous péridurale.
Enquête sur le vrai Michel Drucker, à suivre.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Ramsès II, Elisabeth II, pour clore notre spécial consacré à ces monarques dont le règne n'en finit pas, il nous fallait encore évoquer un troisième, un submersible, Mathieu.
Évidemment, Stéphane, il nous fallait parler de Michel Drucker. Porté et quelque part certainement rajeuni chaque dimanche par le rythme entraînant et hypnotique de son émission générique dont les paroles énigmatiques « Didi-gi-bang, digi-digi-dig-bang-bang, wakatepe » intrigueront probablement les archéologues du futur autant que jadis les hiéroglyphes des pyramides. Michel Drucker continue de régner sur le service public 56 ans après avoir fait ses débuts dans ce qui était encore l'ORTF. 1964, il n'y a que deux chaînes de télé, la pilule n'est pas encore légale et dans le secret de sa chambrine tapissée de fleurs de lys, le petit Stéphane Bern se donne du plaisir en feuilletant Point de vue, magazine qui lui existe déjà.
Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand mamie est dans la chambre.
Mes hommages à votre chère mamie. Au service des sports de l'ORTF, Michel découvre lui le métier de journaliste au contact parfois rugueux de l'iconique Léon Zitrone.
J'ai faim.
Léon Zitrone qui peut également être présenté à nos jeunes auditeurs comme l'ancêtre de Stéphane Bern, c'était j'imagine Stéphane votre idole, vous aviez des posters de Léon Zitrone.
Non, faut pas exagérer non plus.
Bah, c'est lui qui faisait quand même, qui couvrait les, les rois, les reines.
Il les couvrait, si il les couvrait.
Les événements, les événements, mariages, oui, tout ça. Vous l'écoutiez quand vous étiez petit.
Bah, j'ai travaillé même avec lui, j'ai fait ses fiches pour le mariage de Sarah Ferguson.
Ah, mais vous aussi, vous êtes aussi vieux que Michel Drucker en fait. Vous aussi, vous avez été stagiaire de Léon Zitrone, c'est incroyable. Travailler au service des sports aux côtés de Léon Zitrone, une école de la vie en tout cas pour le jeune Drucker, qui comprendra vite comment asseoir son règne, persuader chaque téléspectateur qu'il le connaît personnellement. Et là, je ne plaisante pas Stéphane, pour avoir fréquenté Michel, pour avoir participé à des délocalisations d'émissions avec lui en province, je peux témoigner de cette faculté inouïe qui, selon moi, a fait sa force. Quel que soit le bled dans lequel il déboule, quelle que soit l'identité de la personne qu'il croise, qui lui demande un autographe ou un selfie, Michel est en mesure de dégainer un souvenir, une anecdote. Vous êtes le fils du boulanger d'Ozoir-sur-Burnouille. Et bien, tous les coups, en 77, Michel a acheté un pain au chocolat à votre papa. Vous êtes originaire de Damary-les-Lys. Michel y a célébré la communion de Claude-François Junior. Vous êtes normand. Michel adore le camembert. Il trouvera toujours un truc, ça s'appelle le talent. Et évidemment, ça nécessite une mémoire colossale. Michel, c'est la puissance de traitement d'un serveur de Facebook. Il se souvient de tout. Ce qui, d'ailleurs, peut poser problème au journaliste qu'il interviewe, qui doit en permanence essayer de le recadrer. J'en ai moi-même fait les frais.
J'ai une mémoire. Oui. J'ai une très grande mémoire. Oui, Michel. J'ai passé mes diplômes de pilote d'hélicoptère. Ah, je pilote des avions. Oui. En ce moment, je travaille sur un bimoteur.
Oui, Michel.
Je vois comme un film par jour. J'interview sur le plateau de Le Dimanche une vingtaine d'invités.
Bien sûr, Michel.
Je vois toutes les pièces. Je vois
Michel,
tous les films.
Michel, Michel Bordel. Michel, c'est son Michel Bordel. C'est le surnom quand vous, quand vous êtes interviewé. Michel Drucker, c'est aussi l'homme qui a dit non, Stéphane. À qui?
À qui?
Eh bien, à Silvio Berlusconi, bien sûr.
Il lui proposait quoi?
Mais vous allez voir. Vous allez voir. Vous ne croyez pas si bien dire, Stéphane. Il le raconte, Michel, dans son spectacle. Milieu des années 80, cherchant à le débaucher pour sa nouvelle chaîne, la 5, le philanthrope italien lui fait une proposition qu'il imagine impossible de décliner. Un énorme chèque, une Ferrari et un cheptel de prostituée bulgare majeure de justesse. Michel le raconte dans son spectacle, il dit non. Version officielle, il ne veut pas vendre son âme au diable. Version officieuse, il avait déjà une Ferrari et ce qui va avec. Mais passons. Michel est un fidèle, un homme de principe. Question hygiène de vie également, c'est l'antithèse thèse du bambocheur dépravé vivant la nuit. Les piscines de champagne, les saladiers de poudreuse, il laisse ça aux autres. Lui, son kiff est ailleurs.
Les endives, j'ai toujours aimé les endives. C'est, je peux les manger au jambon, endives béchamel, ça va de soi.
Natation le matin, vélo l'après-midi, endive au jambon le soir. Oui, indéniablement, la vie de Michel Drucker est chiante. Mais c'est aussi le secret de son incroyable pérennité. Cimenté dans l'ennui, son quotidien lui permet de rester proche des Français qui, eux aussi, fréquentent finalement assez peu les soirées blanches d'Eddie Barclay à Saint-Trope. De même, sur le plan médical, si on le compare par exemple à un contemporain comme Jacques Chirac, Michel Drucker corrobore l'hypothèse selon laquelle l'option endive natation est meilleure pour la santé que l'option corona tête de veau. D'autant que, bien que collaborant avec une productrice nommée Françoise Coquet, Michel a toujours dit non à la drogue. Ce qui lui permet d'enchaîner les succès professionnels, Champs-Élysées, Star 90, Studio Gabriel, Vivement Dimanche, des émissions phares de prime time dans lesquelles il interviewe les plus grands, Johnny, 34 fois, Whitney Houston, une fois, Mohamed Ali, une fois, Nana Mouskouri, 978 fois, des acteurs, des chanteurs, des danseurs et même une fois...
La plus vieille chatte de France.
Ah bah, il faut les meubler parfois. Animateur star, Michel est aussi un producteur avisé, un businessman aux réseaux impressionnants qui investit dans différents projets. En 93, excité par les débuts d'Internet, sa copine Jackie Kennedy lui propose de s'associer pour créer un site, le célèbre site Jackie et Michel est né. Et oui, je vous rappelle, la chronique s'appelle 99% vrai, à vous de détecter ce qu'il faut. Et tout en restant fidèle à ses principes, Michel Drucker aura laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'audiovisuel français. La question est évidemment, Stéphane, maintenant, au jour du grand départ, quand il lui faudra aller rejoindre Johnny, Carlos, Marielle et Michou, Michel Drucker sera-t-il aussi exigeant dans la mise en scène mortuaire que le fut Ramsès II? Eh bien, d'après les informations que j'ai pu recueillir via son notaire, chez qui dort son testament, la réponse est non. Pour ses funérailles, Michel fera simple, sobre, sans chichi. Une simple cérémonie avec ses proches, 5-6 000 personnes. Seule exigence, il exige d'être inhumé avec l'autobiographie de Lynn Renault serrée contre le cœur. Disposition spéciale, si Lynn Renault est vivante, elle devra assister à l'oraison funèbre au premier rang, à droite de son épouse Dany Saval et à gauche de Isia, sa chienne. Si Lynn Renault n'est plus là, elle devra être remplacée par Daniel Guichard. Si Daniel Guichard lui-même n'est plus là, c'est Jacques Balutin. Bref, la liste fait 3 pages. Stéphane, vous êtes 72e derrière Chico des Gypsy Kings, mais juste avant Nagui, ce qui vous consolera. Bref, j'interromps ici mon portrait et cette description de l'enterrement de Michel Drucker. C'est vrai, Stéphane, tout compte fait. Si sa femme nous écoute, ça pourrait lui faire de la peine.
Elle écoute France Inter.
Ah bon, alors tout va bien, tout va bien. On est rassurés.
Merci Mathieu pour ce portrait décapant de votre ami. Oui, je sais pas s'il va rester. Michel Drucker, hâte de voir à quoi ressemblera le prochain d'un de vos ennemis. Parce qu'avec
ça sera
avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis.
On n'a plus besoin avec moi, non.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quelle joie de vous retrouver chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, votre nouveau rendez-vous à la croisée du rire et du savoir. Vous connaissez forcément Stéphane Bern, mon nouveau complice. Lui commence également à me cerner.
Il aime les bijoux, il se travestit volontiers et boit des pintes de bière.
Mais ne dévoilons pas tout de suite à nos auditeurs, Stéphane. Épatez-nous plutôt en ouvrant sous nos yeux ébahis le puissant fond de votre érudition. Chaque après-midi, Stéphane Bern, 6h-10, c'est le mot de la fin. Vous décryptez pour nous l'origine souvent étonnante d'un mot. Est-ce que j'ai bien compris le principe ?
Là, je suis bien obligé de l'admettre, oui.
Ah !
Aujourd'hui, 25 août, c'est une date importante pour moi parce que c'est l'anniversaire de la libération de Paris. C'est important aussi pour tous les Parisiens, évidemment. Et Mathieu, cher Mathieu Noël, sachez que c'est également une date importante pour vous parce que c'est l'anniversaire de la chanteuse Evangélie. Bon, je ne juge pas de vos goûts musicaux, mais j'ai vu le poster derrière votre bureau. Vendredi 25 août 1944, à 15h30, le général Philippe Leclerc de Hauteclocq, à seulement 43 ans, reçoit la capitulation des troupes d'occupation de la capitale devant la gare Montparnasse. Et comme nous sommes à la radio, je souhaitais aujourd'hui revenir sur ces phrases étonnantes qui furent autant de messages codés diffusés sur la célèbre Radio Londres par les ondes de la BBC entre 1941 et 1944. Citons pêle-mêle « Les carottes sont cuites »,« Les sanglots longs des violons de l'automne », Mathieu Noël a peur des chauves-souris. Non, ça, c'est pas vrai.
Ça, c'est un fait.
Ou encore, message important pour Nestor la girafe, un long coup.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est vrai. Les sangles longs des violons de l'automne viennent bien entendu du célèbre poème Chanson d'automne de Verlaine qui inspira le Je suis venu te dire que je m'en vais de Gainsbourg. Message important pour Nestor, la girafe à un long cou, donnait le top départ d'un harcèlement massif des Allemands par les résistants avec embuscade et sabotage. Nestor étant le nom de guerre de Jacques Poirier, agent français d'un service secret britannique.
Il fallait être bien renseigné pour comprendre pour pouvoir décoder.
Mais les réseaux de la résistance comprenaient évidemment ces messages codés. C'était à leur intention qu'ils étaient envoyés sur les ondes de Radio Londres. Et pour les carottes sont cuites, alors vous allez me demander. Bah, il faut savoir que jusqu'au XVIIe siècle, le mot carotte, de par sa forme et sa proximité sonore avec le mot crotte, le légume sert dans le langage familier à évoquer les déjections. Fin du XIXe siècle, l'expression « avoir ses carottes cuites » signifie être agonisant, être mourant. Et selon l'auteur Georges Planel, dans les familles pauvres, les rares plats avec de la viande se cuisinaient avec des carottes. La phrase « les carottes sont cuites » évoque donc normalement une fin proche. À la BBC, elle avait été utilisée pour annoncer un débarquement imminent, prouvant une bonne fois pour toutes que l'espoir est toujours permis.
Eh bien, merci Stéphane de nous dire que l'espoir fait vivre, c'est aussi pour ça que nous sommes là.
Justement, l'espoir fait vivre, proverbe qui viendrait d'une mauvaise lecture d'un poème de François Villon. L'eau des poires fait vivre.
François Fillon, non, ça va trop loin. Stéphane, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, François Fillon, non. On sort du truc.
16h, 18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Le Larousse 2020 manque de mots pour restituer, Mathieu, la tristesse qui est la mienne au moment de nous quitter.
Je vous comprends Stéphane, moi-même je déteste me quitter. Prendre congé de moi est toujours une souffrance. Et vous aussi, vous allez me manquer, heureusement, on se retrouve demain.
Rendez-vous à 16h pour découvrir 3 nouveaux personnages qui ont marqué l'histoire. 3 personnalités dont le point commun est parfois surprenant. Par exemple, demain Mathieu, nous évoquerons les spécialistes des romans à l'eau de rose. Jane Austen.
Oui.
Barbara Catland.
Bien sûr.
Et Bruno Le Maire.
Stéphane, lâchez cette pipe à crack. Vous délirez. Le malin s'est emparé de vous. Bruno Le Maire, c'est notre ministre de l'économie. Comment voulez-vous qu'il écrive des romans à l'eau de rose ?
Eh ben, vous verrez bien demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.